de la Villa Morena.
Histoire d'avril.
Jean-Marc Aymion est professeur de chaire supérieure en philosophie et enseigne en classe préparatoire à Rennes. Il n'a pas vécu intimement le 25 avril 1974 au Portugal, mais son regard est singulier et d'autant plus intéressant à double titre. D'abord, puisque c'est le point de vue d'un Français qui a suivi une révolution qui se jouait à 1400 km à vol d'oiseau. Et ensuite, c'est le point de vue d'un homme particulièrement impliqué dans les mouvements de gauche et qui donc n'était pas insensible à ce processus révolutionnaire. En 1974, Jean-Marc avait 17 ans et il était lycéen à Nantes. Lui et ses camarades, foncièrement de gauche, anarchistes même, très politisés, passaient leur temps à l'antenne nantaise de l'APL, l'Agence de Presse Libération. Pour rappel, créée au début des années 1970, spécialisée dans l'actualité sociale, l'APL avait été fondée par des militants d'extrême gauche, proches du maoïsme, dans la foulée des événements de mai 68. Et l'APL de Nantes, où Jean-Marc et ses camarades passaient leurs jours, donc, avait l'originalité d'être peu maoïste, mais très anarchiste. De quoi comprendre que la révolution des œillets au printemps 1974 n'a évidemment pas laissé Jean-Marc de marbre. Il se remémore particulièrement l'ambiance qui accompagnait les nouvelles du Portugal et a en tête les unes des journaux. Ce moment dans l'histoire étant associé pour lui à un journal en particulier, Libération. Effectivement, le quotidien national venait tout juste de naître. En février 1973, Jean-Paul Sartre, Serge July, Philippe Gavy, Bernard Lallemand et Jean-Claude Vernier fondent le journal qui se veut à l'époque sans publicité ni actionnaire financier et pour le peuple, sa doctrine étant résumée en une phrase, « Peuple, prends la parole et garde-la ». Mais pour revenir maintenant précisément au 25 avril 1974, Jean-Marc confesse que ce moment portugais était un moment attendu mais tout à fait différent des attentes. Et c'est ce côté, irréductible à toute attente, qui l'a marqué et qu'il nous explique maintenant. Voici l'histoire d'avril, d'un homme qui a vu la révolution des œillets d'ici, en France. Voici l'histoire d'avril du professeur agrégé de philosophie, Jean-Marc Aymion.
J'avais 17 ans en 74, j'étais lycéen au lycée à Nantes, à Clémenceau. Depuis, je suis devenu prof de philo. Je me souviens très bien du côté totalement irréductible à toute attente de l'atmosphère accompagnant les nouvelles venues du Portugal. Et là, en ce qui nous concerne, mes camarades, les gens qui nous entouraient, c'était par la presse essentiellement, beaucoup plus que par la radio, et de toute façon beaucoup plus que par la télévision, que on recevait des nouvelles. Et c'est associé pour moi au journal Libération, qui était tout jeune à l'époque, enfin qui était en train de naître. Et donc, tu vois, il y avait un système de souscription. Donc, je donnais de l'argent, on était quelques-uns dans le lycée, à donner de l'argent pour le journal, qui était un journal militant, mais pas un journal militant au sens où il y avait d'autres journaux militants qui étaient des journaux de gauche ou des journaux gauchistes qui étaient liés à des associations. Libération, c'était lié à aucun courant précis. Et lorsqu'il y a eu le mouvement portugais, le lendemain du 25 avril, les couvertures étaient, dans mon souvenir, consacrées à la révolution des œillets. Et ce dont je me souviens surtout, c'est l'atmosphère, c'est-à-dire que il y avait une frange importante des lycéens qui avaient des aspirations révolutionnaires, avec tout ce que ça suppose de vague et de déterminé néanmoins, qui voyait donc dans cette révolution quelque chose qui, pour la première fois depuis très longtemps, effectuait au présent ce qui correspondait à l'attente de pas mal de courants, et ça c'est le point sur lequel ma mémoire insiste, c'était un mouvement attendu et tout à fait différent des attentes. C'est-à-dire, 74, c'est l'époque du mouvement autogestionnaire chez LIP, c'était l'époque des luttes du Larzac, c'était l'époque de procès contre des antimilitaristes de mouvements trotskistes. Donc tout ça, en fait, ça s'inscrivait dans un contexte, mais il y avait une certaine cohérence. Le Portugal, c'était un enthousiasme non pas atténué, mais coexistant avec une très grande perplexité. C'était le côté, par exemple, militaire. Un côté militaire, mais un côté militaire non sanglant. Il y avait des gens dont j'étais qui savaient qu'il y avait déjà eu des mouvements de militaires. Par exemple, tu as des comités de soldats qui se sont créés dans le mouvement spartakiste, donc l'extrême gauche de sortie de guerre de l'Allemagne. C'était des comités de soldats. Mais ces comités de soldats, ils mettaient la violence militaire au service de la Révolution. Tandis que ce qui était encore plus surprenant, comme une surprise extrêmement intéressante, le fait que des soldats reprennent la tradition insurrectionnelle des soldats, mais en détournent l'usage violent. En fait, le côté révolutionnaire de cette affaire, c'était ça justement, c'était que ce soit des militaires et pas des civils. Que ce soit des militaires et pas, par exemple, une armée de volontaires. Que des choses surprenantes qui faisaient l'originalité de ce moment-là. C'était une rationalisation martiale de la violence. De ce point de vue-là, ce qui se passait au Portugal nous surprenait agréablement. Ça nous plaisait beaucoup.
Histoire d'avril.
O futuro. Isto vai, meus amigos, isto vai. Passo atrás são sempre dois em frente. E povo verdadeiro não se trai, nem quer gente mais gente que outra gente. Isto vai, meus amigos, isto vai. O que é preciso é ter sempre presente que o presente é tempo que se vai e o futuro é o tempo resistente. Depois da tempestade há a bonança, que é verde como a cor que tem a esperança quando a água de abril sobre nós cai. O que é preciso é termos confiança se fizermos de maio a nossa lança. Isto vai, meus amigos, isto vai. José Carlos Ari dos Santos, poema O Futuro, na obra O Sangue das Palavras, publicado em 1979.
Histoire d'avril.
Le 7 mars 1974, au Portugal, a eu lieu la 12e édition du Festival RTP de la chanson. Ce festival a lieu tous les ans, encore aujourd'hui, et détermine la chanson qui représentera le pays au Festival de l'Eurovision. La chanson gagnante en 1974 s'appelle « E depois do adeus » et après l'adieu. Elle a été composée lors d'un voyage en avion à partir d'un poème lui-même inspiré de lettres que l'auteur avait envoyées à sa femme depuis l'Angola. La voix que l'on entend est celle de Paulo de Carvalho, Paulo de Carvalho, les paroles de José Nise et la musique de José Carvalho. Cette année-là, en 1974, la censure de la dictature surveillait la chanson de José Cid « No dia em que o rei fez anos », le jour de l'anniversaire du roi, interprété par le groupe Green Windows. La chanson « E depois do adeus » avec ses airs romantiques et Paulo de Carvalho avec ses airs de crooner américain sont complètement passés inaperçus. Or, « E depois do adeus » fait partie de ces chansons qui ont contribué à transformer la situation politique et culturelle du Portugal. Au moment de sa diffusion sur la radio Emissores Associados de Lisboa, à 22h55, le 24 avril 1974, les militaires portugais se sont alors tenus prêts. Avant Grandula Vila Morena de Zeca Afonso, c'était cette musique, E depois do adeus, qui a déclenché le début de la fin de la dictature. Avant d'écouter E depois do adeus, laissez-moi simplement vous raconter ce détail curieux. En tant que gagnante du festival RTP de la chanson, cette musique a donc représenté en 1974 le Portugal au festival de l'Eurovision. Et elle a fini à la dernière position avec seulement 3 points. La chanson qui a poussé les forces militaires portugaises à renverser la dictature n'a visiblement pas su convaincre les mélomanes du reste de l'Europe. Écoutons maintenant l'iconique E depois do adeus de Paulo de Carvalho.
Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz
Depois de nós, o adeus.